Le parti pris ce matin, ça va être à travers un témoignage, qui va être le mien, d'essayer à la fois de regarder comment cette question, on peut l'aborder de manière un peu plus large aussi sur un territoire, c'est-à-dire comment on peut réfléchir à la question sur un territoire de manière large et comment du coup des formations peuvent s'inscrire dans une réflexion plus globale. Et une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pensé intéressant de vous faire ce témoignage, c'est que ça va être l'occasion de vous présenter aussi un certain nombre d'outils. Hein, on vous disait lundi, il faut oser les outils en formation, donc on fait ce pari-là. Sachant que tous les outils que je vais vous présenter ce matin sont issus de cette réflexion globale qu'il y a eu sur un territoire où je travaillais. Voilà.
Donc je vais me prêter au même exercice qu'a fait Caroline hier. Je vais vous raconter une petite histoire, voilà, qui est la mienne, en espérant qu'elle va vous intéresser. En tout cas, ce qui me semble assez intéressant, c'est que le travail que j'ai pu conduire en tant que coordonnateur donc de deux RRS à l'époque, qui sont maintenant REP, donc sur une commune pas très loin d'ici qui s'appelle Saint-Priest. Cette question des devoirs à la maison, on a pu vraiment la traiter de manière large, même au-delà des réseaux, puisque c'est un travail qui a concerné l'ensemble de la commune, l'ensemble des enseignants de la commune, des trois collèges de la commune, dont un qui n'était pas en REP. Et cette réflexion, elle a concerné aussi l'ensemble des partenaires qui se préoccupent d'accompagnement à la scolarité. Et c'est quelque chose qui s'est... Enfin, c'est une réflexion qui et des actions qui sont déroulées sur l'espace de 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, il y a eu du travail autour de ça. Ce qui me permet enfin voilà, d'insister sur une question qui est celle de comment, si on veut faire avancer des sujets épineux, il faut s'inscrire sur un temps long. Et donc comment... il y a besoin de s'organiser, et là pour le coup au niveau du pilotage, sur la question de la priorisation. Comment on priorise pour pouvoir mettre au service d'une réflexion de fond les moyens de formation, les moyens de etc. Sur un sujet. Alors Sylvie, tu m'interromps quand tu veux. Elle a participé à un petit bout de l'histoire, Sylvie.
Ouais. Non, juste une petite insiste sur la question de la priorisation et du rôle des pilotes. C'est pas du tout évident que ce soit en éducation prioritaire ou pas, mais a fortiori en éducation prioritaire aujourd'hui, du fait que on a tout le temps du nouveau prescrit, etc. C'est-à-dire que la question de la priorisation dans les établissements ou dans les réseaux, c'est une vraie question professionnelle pour les pilotes qui est très très forte de mon point de vue. Et on a travaillé dans le cadre d'une étude pour la région Rhône-Alpes avec une directrice de mission locale qui avait le même type de problème, c'est la question de la priorisation pour permettre à ses collaborateurs de travailler, et elle avait une expression qu'on a trouvée assez extraordinaire où elle disait qu'en fait son rôle c'était de faire le barrage du Pacifique pour permettre justement à ses collaborateurs de travailler.
Donc juste peut-être pour préciser quand même les conditions qui ont permis ce travail-là sur cette circonscription. Une première chose, c'est au niveau de la relation, alors là je parle beaucoup quand même pour le premier degré, mais de la relation qui s'était instaurée de confiance entre l'équipe de circonscription, les CPC, l'IEN et les enseignants. Et cette confiance, elle s'était installée au cours de quelque chose qu'on avait mis en place avec l'aide du centre académique, le CAREP à l'époque, le centre Michel Delay, qui s'intitulait une action formation recherche. On sortait tout juste, quand on a commencé la réflexion sur les devoirs, d'une action formation recherche sur la conscience des apprentissages, donc gros sujet, sur lequel on avait travaillé pendant 3 ans, et où ce travail-là avait permis d'articuler les temps de formation. Et on avait mis au service de cette réflexion tous les temps de formation, stage REP, animation pédagogique, etc., avec des temps où formateurs, IEN, CPC, moi, on allait dans les classes, à la demande des enseignants volontaires, pour réfléchir avec eux sur une question qui se posait. par rapport à leur propre pratique. Vous voyez ? C'est-à-dire que on se mettait vraiment au service du questionnement de l'enseignant. Et ce qui nous permettait aussi, dans les temps de formation, de faire en sorte que ce soit ces enseignants-là, avec qui on avait été réfléchir, qui deviennent les animateurs de groupes de travail sur le sujet qu'ils avaient travaillé. Et en termes d'engagement dans les processus de formation, enfin voilà, il y avait quand même quelque chose qui était installé et qui a expliqué aussi ce qu'on a pu faire aussi sur les questions de travail personnel et les modalités de ces choses-là. La deuxième chose qui me semble importante à signaler, c'est que le travail partenarial avait énormément progressé. Et un des outils de ces progrès, ça avait été ce qu'on avait appelé, nous, la coordination des coordonnateurs. Je vous la fais courte, mais sur une ville comme ça de 40 000 habitants, en politique de la ville, avec deux réseaux, il y avait une coordinatrice PRE, une coordinatrice CEL, un coordonnateur CLSPD, une coordinatrice petite enfance, un coordonnateur enfance-jeunesse, une coordinatrice ASV Atelier Santé-Ville. Et à peu de choses près, donc chaque coordonnateur coordonnait un dispositif. Et chaque dispositif était porté par un service différent dans la commune. Et ce qui était très très compliqué, c'était que, ben, y compris donc à l'intérieur de la collectivité locale, il y avait très peu de transversalité. Et parfois, ben, un dispositif faisait quelque chose, l'autre dispositif était même pas au courant. Et il n'y avait pas de réflexion globale sur à quoi ils servent tous ces dispositifs, comment ils s'articulent, etc. Donc on avait décidé, et pour le coup, pendant longtemps, ça a été quelque chose de clandestin. Et peu, voire refusé par les directeurs de service. Alors de mon côté, j'avais la chance, chef d'établissement, UN, ils m'ont dit banco, il faut y aller. Donc j'avais vraiment un soutien. Mais du côté des coordonnateurs ville, c'était pas évident. J'oubliais les agents de développement social urbain qui faisaient aussi un gros boulot. Donc on a décidé de se rencontrer régulièrement dans cette coordination de coordonnateurs. Et c'est là qu'on a essayé de réfléchir. D'abord, s'informer sur ce qu'on faisait et le sens, les calendriers, les objectifs de chaque dispositif, mais aussi on a essayé de commencer à réfléchir sur quelles étaient les choses qui fonctionnaient, qui fonctionnaient pas, sur les différents champs, sur les différentes tranches d'âge, quelles étaient les choses qui existaient, puis quels étaient les manques. Voilà. Et c'est ce qui nous a amené à se dire que peut-être que indépendamment des dispositifs, il fallait peut-être qu'on construise du travail partenarial en amont. Et qu'on construise des groupes de réflexion partenariaux sur un certain nombre de sujets qui étaient vifs. Et les trois principaux qui nous semblaient importants à construire, c'était le premier, un groupe de réflexion sur l'accompagnement à la scolarité. Le deuxième, un groupe de réflexion sur la question du décrochage scolaire. Et le troisième, un groupe de réflexion sur le soutien, l'appui à la parentalité. Vous voyez que c'est des thématiques... J'imagine que sur vos territoires, qui peuvent être compliqués. Il se trouve qu'à l'époque, donc l'endroit où le travail partenarial était le plus avancé, c'était à l'intérieur du programme de réussite éducative. Et c'est donc en comité de pilotage du programme de réussite éducative qu'on a proposé de mettre en place ces groupes de réflexion. Ça a été plus ou moins compliqué selon les groupes à les mettre en place, mais donc moi j'ai été chargé de mettre en place le groupe de réflexion sur l'accompagnement à la scolarité. Et donc c'est un peu cette histoire-là, elle a commencé comme ça, cette histoire, à travers ce groupe de réflexion sur l'accompagnement à la scolarité, et je vous dis tout de suite, j'ai vraiment eu la chance d'avoir l'appui, le suivi et la participation dans ce groupe de mes responsables de l'éducation nationale. C'est-à-dire que dès la première rencontre de ce groupe de réflexion, j'avais à mes côtés l'IEN, les trois chefs d'établissement et leurs adjoints, des trois collèges, et puis l'ensemble des partenaires qui étaient concernés par cette question, donc la coordinatrice CEL qui était responsable aussi du périscolaire au niveau du service éducation, les directeurs de centres sociaux, de maisons de quartier, etc. Et puis... deuxième chance que j'ai eue, c'est d'avoir mon IEN, dès la première réunion de ce groupe qui dit voilà, l'ensemble des partenaires, bon, on ne pourra avancer sur cette question de l'accompagnement à la scolarité. Et en gros, je vous dis, quel problème, c'est que l'accompagnement à la scolarité était quasiment et intégralement la chose qui se faisait, c'était uniquement de l'aide aux devoirs. Et ce qui nous semblait, c'est que l'accompagnement à la scolarité, c'est une question qui est bien plus large. Et donc, si on veut libérer des forces pour réfléchir autrement à l'accompagnement à la scolarité, il fallait que l'école, et ça, ça a été le discours de l'IEN, donc réfléchisse à la question des devoirs. L'intérêt de ce travail-là, ça a été aussi de mettre en réflexion l'ensemble des pilotes sur un territoire autour de cette question des devoirs. On a travaillé, on a fait 2 séances de 3 heures pour rédiger ce texte. On a vraiment bossé avec l'inspecteur, les chefs d'établissement et les adjoints pour essayer voilà, de produire un texte de cadrage où on soit tous d'accord au niveau des pilotes sur une même circonscription, sur une même commune, sur un cadre de réflexion qui était proposé aux collègues. Et ça nous semblait important de construire cette cohérence au niveau du pilotage avant de rentrer dans le travail avec les enseignants. Ce qui me semble intéressant aussi, je ne sais pas si vous voyez l'intitulé, c'est un cadre de réflexion commun, l'intitulé de ce document. C'est pas un texte de cadrage prescriptif, c'est un document commun qui propose des pistes de réflexion et qui n'a pas été présenté ensuite aux collègues comme quelque chose qui était non discutable, non négociable, non etc. Et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites à la fin, d'ailleurs, qui ont été discutées par les collègues et avec des arguments, etc. Et ce qui a conduit à des aménagements. Donc ça a été le premier temps. Vous dire aussi que ce groupe de réflexion, il n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas été outillé théoriquement. Et voilà, moi j'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir venir assister en tant qu'ordonnateur à une formation de formateurs ici qui s'intitulait « Être élève en éducation prioritaire ». Et où j'ai eu la chance d'avoir ici, là, sur cette table, Séverine Cacpo, Christine Félix et Patrick Rayou, sur une table ronde. Voilà, ça a été assez fondateur pour nous, comme appui théorique pour pouvoir engager notre travail de réflexion. Soit dit en passant, les formations de cette époque-là, l'INRP, les seuls comptes rendus qu'on trouve sont sur les sites des réseaux de Saint-Priest. Donc si vous cherchez un compte rendu de cette table ronde, vous le trouvez donc sur ce site. Documentation du RRS, voilà, j'y suis. Être élève en éducation prioritaire. Et voilà, vous avez les comptes rendus des interventions de Christine Félix, Séverine Cacpo, et etc., avec leur diaporama, avec le lien vers l'enregistrement audio de leur intervention. Voilà. Donc, du côté du groupe de réflexion sur l'accompagnement à la scolarité, on a avancé petit à petit sur 2 objets. Le premier, ça a été de concevoir une charte, enfin, oui, un projet local d'accompagnement à la scolarité. Donc ce projet local, je ne vous l'ai pas imprimé, mais vous le retrouvez, pareil, dans le portfolio. Donc avec un état des lieux, avec des données qui avaient pu nous être fournies par les collègues de la politique de la ville, les agents des SU, avec, voilà, pour nous, le constat qui était prégnant sur la commune, c'est que si on parle de problèmes liés aux devoirs, à l'accompagnement, à la scolarité, c'était l'indicateur qui nous semblait pertinent, c'était le niveau de qualification des familles. Et là, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à lire les chiffres, mais voilà, sur une commune de 40 000 habitants comme ça, on a pu faire ce constat qu'il y avait 70% des adultes de la commune qui avaient un niveau de formation égal ou inférieur au BEP. J'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, 26% ont un BEP, un CAP, et 43,5% sans diplôme ou brevet des collèges, ou juste le brevet des collèges. Donc vous voyez bien que, voilà, c'est des chiffres qui parlent. Si on réfléchit aux capacités des adultes à pouvoir accompagner les devoirs des enfants et à pouvoir les accompagner au fur et à mesure de la scolarité et de l'élévation du niveau des contenus, vous voyez bien que la question sur une commune comme ça est prégnante. Donc, ça, c'était en ce qui concernait l'état des lieux. Et juste pour vous dire, ce qui me semble assez intéressant dans ce projet local d'accompagnement à la scolarité, c'est que dans ces axes, Il y avait la question de voilà des savoirs à construire, à décontextualiser dans et hors l'école. La question de rendre lisible l'école pour tous. La question de l'ouverture à la culture et à l'environnement. Et aussi un axe qui concernait le travail personnel de l'élève avec des pistes de travail pour l'éducation nationale. Voilà. Et ça me semble être assez intéressant parce que, enfin, voilà, j'ai pu voir et lire un certain nombre de projets d'accompagnement à la scolarité, de contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Cette dimension de réflexion de l'éducation nationale sur ce qu'elle envoie à l'extérieur est rarement présente. Donc voilà, ça me semble être un élément intéressant. Et enfin, la deuxième chose qu'on a réfléchi dans ce groupe de réflexion sur l'accompagnement à la scolarité, ça a été pour l'année suivante de réfléchir à un plan de formation. Ce plan de formation, je vais essayer de vous le décliner rapidement. On a essayé d'articuler les choses en fonction des moyens dont on disposait et en essayant d'oublier personne et d'avoir une réflexion à minima pour l'ensemble des enseignants de la circonscription, y compris hors REP. Donc ça nous a conduit à organiser pour tous les enseignants, et là pour le coup, voilà, on avait les 200 instituts de primaire et les professeurs des trois collèges, on l'a fait en trois fois. On a fait trois demi-journées comme ça sur chaque secteur de collège, où c'était bon format conférence, mais on a eu la chance de pouvoir faire venir Séverine Cacpo. Donc ça a été quand même assez riche et percutant en termes de voilà d'impact sur l'ensemble des collègues. Donc l'ensemble des enseignants, premier et second degré, ont pu avoir cette matinée de conférence avec Séverine Cacpo et puis un professeur à l'époque de l'UFM de Lyon. Voilà, et je pense que ça a permis de partager un cadre théorique et des problématiques largement et qui ont aussi, c'est aussi une manière de partager une culture commune qui permet d'engager aussi les gens après dans du travail. Deuxième partie de ce plan de formation est là qui a concerné plus spécifiquement les réseaux d'éducation prioritaire, mais on a quand même associé les enseignants du troisième collège parce que ça nous semblait important, puis ça s'est révélé possible. Donc, alors là, c'est pareil, en fonction des moyens à l'époque, c'était une année où on n'avait plus beaucoup de remplacements pour le premier degré. Donc on a bricolé quelque chose où en gros, on a pu avoir 12 instituts qui étaient remplacés par des stagiaires UFM pendant 15 jours. Il n'y avait plus de, qu'on appelle ça les remplaçants formation continue. Voilà, il y a eu des suppressions de postes à cette époque, pas si lointaine. Donc on avait pu bricoler quelque chose avec des stagiaires qui ont pris 15 jours les classes. Alors ça n'a pas été simple parce que les stagiaires UFM qui prenaient les classes dans des écoles pas forcément faciles, voilà, les enseignants étaient un peu en tension et il y a eu quelques incidents qui certains ont dû s'absenter pendant le stage pour aller recadrer des choses dans leur classe avec le stagiaire. Mais bol en mal an, on a pu faire 15 jours de stage quand même avec ces collègues-là. Et puis pour pouvoir quand même vraiment articuler les choses avec les collèges, donc on a fait les trois premiers jours, c'est ce qu'on a pu négocier avec les trois chefs d'établissement, les trois premiers jours de la formation ont été communs avec les professeurs de collège. Voilà, donc on a eu, en tout, il y avait 27 professeurs de collège venant des trois collèges sur les trois premiers jours. Donc, ça c'était le premier temps qui a concerné les réseaux d'éducation prioritaire. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que on s'est vraiment soucié, parce que tous les collègues n'étaient pas là, et un des soucis des collègues aussi sur cette question qui est vive, hein, il y avait des vraies discussions dans les écoles autour des devoirs, c'était comment on va partager ça avec les collègues dans les écoles. Donc on a consacré la dernière demi-journée de ces 15 jours de formation avec les collègues pour faire un compte-rendu, et c'est eux qui ont rédigé le compte-rendu. Voilà, donc c'est les collègues qui ont rédigé ce compte-rendu, et voilà, pour eux, ça a vraiment été voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient d'important, qu'on veut pouvoir transmettre aux collègues. Donc ça, ça a été un premier temps. Vous trouvez, si ça vous intéresse, dans le portfolio, la grille de ce stage. Et puis, ça a été le premier temps, au sens où je vous parlais tout à l'heure de la dynamique d'action formation recherche qu'on avait mis en place sur la thématique de la conscience des apprentissages. On a décidé de continuer cette thématique Et les collègues, pendant le stage, ont produit un certain nombre de pistes de travail qu'ils ont essayé de mettre en œuvre après le stage. Et donc, on a bloqué des journées avec les formateurs, l'IEN, CPC, pour pouvoir aller, de la même manière qu'on l'avait fait sur la conscience des apprentissages, aller à leur service pour les aider à réfléchir autour de ce qu'ils essayaient pendant le stage et qu'ils ont essayé de mettre en œuvre après, et donc où on a pu mettre en place, étant un peu de réflexif, on est venu se mettre au service de cette réflexion, et donc du coup cette réflexion elle a pu se partager après au niveau de chaque école. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait ces temps, nous on appelait ça de recueil de données, où on venait dans les classes des collègues qu'ils souhaitaient, on organisait toujours un temps à la fin de la journée, en réunion d'équipe d'école, où on partageait avec l'ensemble de l'équipe ce qui s'était discuté avec les enseignants dans la journée. Donc voilà, ces différentes fiches, vous les retrouvez, voilà, et ça peut être pour un des outils que vous pouvez éventuellement utiliser, je sais pas, en formation, la manière dont ont été construites ces fiches. Juste, et ça on pourra en reparler tout à l'heure, vous avez un truc qui est un peu bizarre, hein, qui s'appelle « Quel wagon ?» Je ne sais pas si vous voyez. Ça, en fait, ça fait référence, alors c'était une manière un peu imagée que notre formateur, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, mais qui s'appelait Marc Prouchet, qui aimait beaucoup les images, c'était pour faire référence aux 7 catégories d'aide de Roland Guagou. Je ne sais pas si ça parle à certains. Donc il y a anticiper, revenir en arrière. Attendez, je vais vous retrouver ça parce que c'est peut-être important. Bon, je vous le retrouverai. Donc, mais pareil, si vous cherchez sur Internet, vous tapez les 7 catégories d'aide de Roland Guagou, vous retombez. Donc voilà, il y a revenir en arrière, anticiper, préparer, mémoriser. Enfin, voilà, toutes les choses qui me semblent intéressantes pour pouvoir aussi réfléchir, catégoriser les types de travaux personnels qu'on fait avec qu'on demande aux élèves. Voilà, donc vous trouvez toutes ces fiches en ligne. Donc ce travail là, donc ça a été, j'allais dire, tout pour cette année, mais donc ça a continué encore l'année suivante. Et pareil, pour pouvoir continuer l'année suivante avec, là pour le coup, une baisse drastique des moyens, on n'a pas pu mettre en place de stage de réseau cette année-là. On a essayé à la fois de continuer avec les collègues de collège et à la fois de mobiliser les collègues d'école primaire. Mais alors là, pour le coup, on a mobilisé les collègues sur des temps de réunion d'équipe, donc conseil de cycle, conseil d'école, pour pouvoir poursuivre ce travail. Pour pouvoir poursuivre ce travail, on s'est mis autour de la table avec une des principales de collège et l'IEN pour produire le document, le troisième document qu'on vous a donné, qui est vers une charte du travail personnel à l'école et au collège. Donc, sur ce document, on a essayé à la fois de capitaliser toutes les choses qu'on avait pu travailler les années précédentes. Et voyez, remettre aussi c'est quoi le sens des devoirs. Et pour répondre à des questions qui se posaient aussi sur la question du lien avec les familles, est-ce que les devoirs, ça sert à faire du lien avec les familles, voyez que ça a été remis, mais avec la précision aussi que le lien avec les familles, il y a peut-être d'autres manières de le construire. Et donner, avoir et rendre visible l'école pour les familles, il y a peut-être d'autres pistes de réflexion. Donc redonner du sens à ses devoirs à la maison, proposer aussi un certain nombre de catégories, quels sont les types de travaux personnels qu'on donne. Et puis on a essayé de proposer une grille qui aide les collègues à réfléchir sur une progressivité. C'est-à-dire comment, sur chaque type de travail, on arrive à construire sur l'ensemble de la scolarité obligatoire une progressivité dans l'apprentissage de l'autonomie par rapport à tel ou tel type de travail. Donc, c'est un document qu'on a préparé. Le document tel que vous l'avez, c'est le document de travail qu'on a préparé avec l'IEN et la collègue chef d'établissement, Fabienne, ouais. Fabienne Morand-Morel, pour ceux qui la connaissent, qui est maintenant principale sur Lyon. Et pareil, pour nous, c'était pas un document prescriptif. C'est un document qui a été soumis et retravaillé. Alors, en formation, puisque la suite de la formation, ça a été, puisqu'on pouvait plus avoir de stage de réseau cette année-là, on a fait ce qu'on a appelé, nous, un stage intercollège, Donc on a pu avoir, si ma mémoire est bonne, 3 jours de stage intercollège, et où les collègues ont bossé sur ce document pour l'amender, et ils ont fait des amendements, hein, les propositions qu'on avait faites, notamment sur le cadrer le temps de travail, etc., en fonction des niveaux. Ils ont fait des amendements, des propositions. Donc ça a été retravaillé dans ce temps de formation, et puis ils ont essayé de le remplir. C'est-à-dire que vraiment, on arrivait pour chaque niveau. Alors, ça a été pendant le stage pour le collège, et puis après, ça a été le travail en conseil de mettre dans les différentes écoles, pour les écoles, pour les niveaux du premier degré, à essayer de mettre, voilà, quels sont les types de travaux qu'on peut donner en fonction des cycles, en fonction des âges, etc. Et puis, à chaque fois, vous voyez une case qui me semble importante, c'est comment on rend ça lisible et compréhensible pour les familles, et puis comment on construit l'apprentissage progressif en classe par rapport à ce type de travail demandé. Je vais pas m'attarder beaucoup plus sur ce processus, mais moi, c'est ce que je viens de vous décrire là sur le stage intercollège, et puis le travail qui s'est amorcé sur cette charte. Ça a été ma dernière année de coordonnateur à Saint-Priest avant que j'arrive ici. Voilà, pour avoir fait intervenir donc mon inspecteur Patrick Mirjanan l'année suivante, qui est venu présenter un peu tout ce travail aussi ici. Voilà, je sais que ce travail-là a continué dans les écoles, et ça a vraiment abouti dans chaque école à une charte qui a été rédigée par l'ensemble des équipes et qui a été communiquée aux parents. Donc vous jetterez un coup d'œil dans le portfolio, hein, vraiment tous les éléments qu'on a travaillé au cours de ces années sont présents dans le portfolio. Alors, j'en ai pas parlé, y compris le troisième document qui me semble peut-être intéressant aussi pour vous en termes de pistes pour la formation. Vous avez un gros document là où il y a un tableau avec plein de types de devoirs. Donc ça a été un questionnaire qu'on a demandé aux enseignants qui participaient la première année au stage REP de remplir avant de venir. Donc on a utilisé, pour ceux qui le connaissent, l'outil Google Forms, qui est assez pratique pour faire ça, ne serait-ce que parce qu'il permet très facilement de faire passer un questionnaire de manière anonyme. Et ça me semble être un élément, vous vous rappelez peut-être de ce qu'on disait à propos de utile, utilisable, acceptable. En termes d'acceptabilité, quand on fait des questionnaires, la question de l'anonymat, ça me semble une question assez fondamentale. Donc pour ça, Google Forms est assez pratique, et on récupère très très facilement les résultats pour les mettre en forme après. Et donc ce qu'on avait demandé aux collègues avant la formation, c'est simplement de donner 3 devoirs qu'ils avaient l'habitude de donner aux élèves, et en leur posant un certain nombre de questions par rapport à ces devoirs, comment c'était formulé, quel était le sens pour eux, qu'est-ce que il leur semble que ça permettait de développer pour les élèves, qu'est-ce que il fallait que les élèves mettent en œuvre pour y arriver, et puis quelles sont les limites et les freins à ce type de travail. Ce qui me semble assez intéressant, et quand vous parcourez un petit peu le document, c'est que ça permet aussi de se rendre compte que les enseignants sont bien plus conscients des difficultés liées au devoir qu'on veut bien penser et le croire. On projette parfois un petit peu des choses, et voilà, ce type de questions, ça permet aussi de déconstruire nos propres représentations de formateurs par rapport aux collègues. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que s'ils sont conscients des limites, qu'ils sont toujours armés pour se dire « mais comment on peut faire autrement ?» Et vous avez bien vu pendant ces 3 jours que la complexité de la question laisse les enseignants vraiment en difficulté pour faire autrement s'ils restent tout seuls avec cette question. Et donc c'est bien la question de quel travail collectif et quelle réflexion collective on arrive à construire qui permet d'avancer. Et voilà, c'est pas en disant aux collègues, voilà, ce que vous faites, c'est pas bien, il faut faire autrement, qu'on va pouvoir avancer sur cette question. Parce que ce problème est d'une telle complexité, à la fois didactique, à la fois relationnel avec les familles, à la fois relationnel avec les collègues. Il y a tellement de choses qui sont derrière à détricoter que, voilà, c'est qu'à travers du travail collectif et de la réflexion collective qu'on peut avancer dessus. Et du coup, ce type de matériaux, on en discutait avec un groupe hier qui disait, moi je l'ai fait pendant le début d'une formation, enfin qu'on le fasse avant ou pendant une formation, c'est aussi une manière de ramener le réel et d'avoir vraiment du matériau de travail. Et là, par rapport à cette grille avec tous ces devoirs, on a passé toute la première partie du stage vraiment à essayer de travailler, de catégoriser ce corpus de devoirs. Et déjà, réfléchir à ce qui se fait, à le catégoriser, à lui redonner du sens, à réfléchir à, ouais, la leçon, là, quand on la donne en fin de cycle 2, est-ce que c'est la même que celle qu'on donne en 6e ou en 5e? Et c'est quoi les différences? Et si on veut apprendre petit à petit aux élèves à progressivement être capable d'apprendre une leçon de géographie en 5e, qu'est-ce qu'il faut qu'on construise en amont? Enfin, toutes ces réflexions-là, vous voyez, elles s'amorcent vraiment. Parce qu'on commence par faire un travail d'abord sur du corpus, sur de l'existant, et on n'est pas uniquement sur de la, sur des discussions non outillées ou qui s'ancrent pas dans du concret de qu'on ramène du travail des collègues. Voilà. Donc on a parlé pas mal d'utiliser la vidéo pour ramener le concret. Il me semble que c'est une autre manière aussi de ramener le concret. Une autre manière de ramener le concret aussi, je vous l'ai dit, mais voilà, qu'à un moment donné, en tant que formateur, ou en tant que QEN, ou en tant que coordonnateur, ou etc., qu'on s'organise aussi pour aller observer le réel, aller dans les classes, avec un regard qui j'allais dire, bienveillant, qui vient d'abord être un outil à la réflexion du collègue, puis après à la réflexion des équipes, ça me semble être un autre outil pour ancrer et retravailler le réel, et puis pour engager les enseignants aussi dans la formation. Juste comme ça, mais ça me semble à la fois anecdotique mais essentiel, mais dans le projet de circonscription, mon IEN avait inscrit, dans le projet de la circonscription, la reconnaissance professionnelle et la convivialité comme objectif. Et ça me semble, à la fois anecdotique et en même temps essentiel. Et la reconnaissance professionnelle, elle passe d'abord peut-être par se dire que quand on a des fonctions qui font qu'on n'est plus directement ou plus tout le temps face à des élèves, quand on est formateur, quand on est coordonnateur, quand on est pilote, peut-être que notre rôle, il est peut-être pas avant tout d'être sur le contrôle, mais d'être d'abord sur le soutien. Est-ce que l'infrastructure éducation nationale en termes d'organisation de système, elle est là pour venir soutenir le travail des enseignants? C'est pas toujours sûr. Je vais m'arrêter là, puis qu'on puisse vraiment échanger et qu'on puisse discuter autour de tout ça.